Radio Campus Lille, il est 23h.
Cinquième balle de match, c'est celle-là qui compte. L'équipe de France est double champion de l'Olympique. Oh, le truc délirant.
Le Campus Sport Club, tous les mardis soirs, 23h minuit, sur Radio Campus Lille. Et bonsoir à toutes et à tous, auditeurs et auditrices de Radio Campus Lille, j'espère que vous allez bien, c'est Adrien Fedeli. On se retrouve pour une nouvelle émission ce soir à parler sport jusque minuit pétante. Il est temps d'une nouvelle émission du Campus Sport Club avec, ce soir, pour m'entourer, ils étaient là la semaine passée, on a produit un très très bel hors-série que je vous invite à aller écouter si vous n'êtes pas très curieux sur YouTube, Spotify ou Deezer, c'est au Campus Sport Club. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de cachotterie. Charlie et Baptiste, le duo de choc, qui m'accompagne pour potentiellement la toute dernière de cette saison 4. On fait exprès, on a tiré jusqu'au bout. Au bout d'un moment, il faut un peu laisser les gens tranquilles.
J'ai même fait un faux teasing en disant que...
Attends, Coco.
Ah. Voilà. Ah, je pensais que. J'ai même fait un faux teasing en disant ouais, c'est la dernière émission il y a ça 2 semaines et finalement c'était pas la dernière. Donc j'espère pas reproduire la même chose, s'il te plaît, Adrien.
Tu peux. Excuse-moi, problème de micro peut-être pour ceux qui écoutaient, mais petit filou, t'as. Parce que j'ai toujours l'image que tu te mets au 5. Ouais. Et tu te décales d'un cran, tu prends le dernier.
Ah ouais?
Ben ouais.
Ah ben pourtant je suis toujours sur le 6.
Eh ben
mais
non.
Toutes les semaines.
Ben non, quand je mets, ah, ben c'est pas grave.
Ben, la prochaine fois, en plus il est
bon,
très haut.
Est-ce que Charlie a le bon micro?
Dis-moi.
Oui.
Mais ok.
Il a le bon micro, on t'entend.
Mais je dois pas avoir le bon casque.
Ouais. Bon, tu sais quoi, j'entends pas grand-chose non plus.
Bon, c'est pas grave, on s'entend dans la radio.
Je m'entends pas.
L'ambiance.
Tu nous entends toi?
Non.
Non, bon bah alors c'est tip top. On va devoir régler un problème technique en cours d'émission. Bah, c'est pas très grave. Charlie, quand même, l'avantage c'est qu'on t'entend. Tu vas pouvoir faire ta chronique.
Yes.
Tout va bien. On va attaquer cette émission, la Der des Der, comme on va l'appeler, de cette saison 4, avec évidemment, pour faire tout le tour de l'actualité, les résultats pour commencer. Charlie s'y colle. Charlie, petit jingle. Bon, c'est pas ta voix et on n'a pas eu le temps de faire cet enregistrement-là, mais, mais ça n'empêche qu'on va bien t'écouter juste après.
Ça marche.
Victoire, défaite, sacre ou désillusion, on revient tout de suite sur les résultats de la semaine dans le CSC. Tu es inquiet, Charlie?
Non, je disais, mais là, c'est bizarre, j'entends.
Mais oui, mais les sons t'entends et pas... Alors, on va devoir rectifier ça. T'entends les jingles. Bah, c'est quoi, on va pas nous écouter, on va mettre que de la musique. Voilà.
Ouais.
Oh, je vais rappeler Yann, qui était avant nous. Non, je déconne. Résultat, Charlie, qu'est-ce qu'il y a? Alors, il y a encore... On est en fin de saison entre gros guillemets, ouais. Évidemment. Mmh. Il y a encore énormément de choses à dire. Il y a des compétitions de partout. Pas mal de sports individuels, c'est vrai, mais il y a encore du foot. Il y a de quoi dire, Charlie.
Il y a encore du foot parce que
en entrée.
Bah, je vais vous parler un petit peu de celle dont vous entendez forcément parler un petit peu partout. Si vous en avez pas entendu parler, vous avez au moins sûrement flairé l'odeur des billets, je pense, parce qu'il y a un gros pactole à la clé. C'est la Coupe du Monde des clubs.
Ah, du football.
Voilà, bah, on commence toujours un petit peu par le foot.
Vas-y, régale-nous.
Voilà, la Coupe du Monde des clubs, elle a commencé. On la vit cette compétition. à fond, moins à fond, je sais pas vous les gars. On en parlait la semaine dernière ici même sur le Campus Sport Club. Et le PSG a pris sa revanche de novembre dernier face à l'Atlético de Madrid. Et il a montré que c'est un club, une équipe, un petit peu un collectif quand même, qui est tout simplement métamorphosé. Ils se sont imposés 4 buts à 0, un Vitinha toujours solide, un Fabian Ruiz aux lueurs d'une demi-finale de Ligue des Champions ou d'un Euro avec l'Espagne. Et un jeune Titi parisien qu'on n'arrête plus, j'ai l'impression. Mayulu. Le gars, 4 fois, il rentre 4 fois, 10-15 minutes en Ligue des Champions, il marque 2 buts sur ses 4 matchs, un but en finale quand même. Et là, dimanche, Luis Enrique lui donne sa place, il plante. Qu'est-ce qui vous évoque, vous, ce petit jeune?
Moi, j'ai de l'admiration pour Mayulu parce qu'il est un peu éclipsé, comme tu l'as dit, il fait une sacrée fin de saison, comme on peut le dire. Mais pour revenir sur mes propos, ouais, il est un peu éclipsé par des jeunes joueurs encore plus talentueux comme Désiré Doué, mais il fait son petit bonhomme de chemin et il arrive à planter des buts qui sont quand même pas mal. J'ai vu le match face à l'Atlético. Il plante une frappe sèche au petit filet gauche, je crois.
Synonyme du caractère.
Il peut rien faire, alors que c'est au black au goal. Hein. C'est au black au goal, et ouais, c'est synonyme, comme tu dis, c'est synonyme du caractère. Très grande force du mental.
Très bien, merci Baptiste. Pour ça, je vais quand même finir avec un petit tour d'horizon des grands clubs européens dans cette Coupe du Monde des clubs. Alors, il y a eu des déceptions, des surprises, des raclées sans nom. Et on va commencer justement avec le Bayern de Munich qui s'est imposé 10-0 face à Auckland City. Un Musiala clinique qui claque un quadruplé, Michael Olise un doublé. Comme à son habitude, glacial face caméra, il a exprimé à quel point il n'a pas eu de peine pour ces joueurs d'Auckland City qui n'ont possédé le ballon qu'à équivalent de 25% dans ce match. Avec une frappe quand même, une frappe cadrée. À souligner, mais ce qu'on souligne aussi, c'est la piètre performance de leur voisin allemand, le Borussia Dortmund, qui vient arracher un énorme 0-0 face au club brésilien de Fluminense, tandis que Chelsea, de leur côté, assure en se hissant à la première place de leur groupe D, après une victoire simple et efficace face aux locaux de Los Angeles Football Club. On va parler un petit peu d'Euro 21, les gars, parce que ça nous intéresse peut-être un petit peu plus. Les Bleus, ils se sont fait samedi soir un petit peu peur face à des Géorgiens désireux de victoire. Nos Bleus, ils étaient menés 2-1 jusqu'à la 89e minute. Un jeune Nantais pour égaliser, Joan Le Penant, 22 ans. Puis en toute fin de match, l'histoire elle est belle, lui qui s'était vu refuser un but à la 92e minute. Thierno Barry a pu inscrire son tout premier but en bleu. Vous avez entendu peut-être son émotion après le match?
Il a vraiment été costaud tout au long du match. Il a vraiment provoqué son but. Ça, c'était pas, voilà, il a pas eu de chance sur le hors-jeu. Ça s'est joué à rien, ça s'est joué à un genou. Et là,
exactement. Et là. Puis en plus, il le marque un peu de la plus belle des manières, puisque c'est le but qui offre la victoire aux Bleus, justement, à la 102e minute de jeu, après 12 minutes de temps additionnel. Et toutefois, je crois que cette victoire, elle leur a mis un peu de plomb dans la tête, puisque nos Bleus se sont encore imposés ce soir. 4 buts à 1 face à la Pologne, débuteur aux allures d'un derby breton, puisque c'est Nathan Zézé et Mathis Ablin, issus du FC Nantes, et un doublé de Djaoui Cissé, jeune joueur du Stade Rennais, qui ont permis aux Bleus de clore cette rencontre assez facilement. Et j'ai maintenant un petit peu envie de faire plaisir à Baptiste, alors on va parler un peu de deux roues. On sait que c'est ton sport favori. C'était quoi cette semaine-là?
Ah, c'était le critérium du Dauphiné, le fameux critérium du Dauphiné.
Et ouais, c'était le critérium du Dauphiné. Et justement, il a rendu son verdict après une semaine de course assez intensive quand même hein, sur les routes alpines. Et c'est Tadej Pogacar, le Slovène de 26 ans qu'on ne présente plus, qui a remporté le classement général. Il aura su...
Qui
C'est Pogacar.
Ah ouais? Je connais pas ce type, moi. T'as vu, il est tombé dans le panneau.
Putain, il m'a fait
il
peur.
Il a vraiment eu, ouais.
Donc c'est Tadej Pogacar qu'on ne présente plus, qui a su dompter ce tour en s'emparant du maillot jaune évidemment et du maillot vert, celui du meilleur sprinter. Il laisse derrière lui ses deux rivaux qui ne sont pas des moindres, le Danois Jonas Vingegaard derrière au classement général à 59 secondes et l'Allemand Florian Lipovits, lui qui prendra le maillot blanc du meilleur jeune à 2 minutes 38 derrière le Slovène. Donc ce Dauphiné, il a un peu confirmé quand même la forme excellente de Pogacar juste avant le Tour de France. Il a maîtrisé la montagne, attaqué au bon moment, contrôlé tous ses adversaires. C'est un message fort quand même qu'a envoyé à ses futurs rivaux. Il est le grand favori pour juillet. Baptiste, on sait que c'est un peu ton chouchou, donc tu le vois vraiment rouler, toi, dans tous les sens du terme sur cet adversaire.
C'est compliqué de dire non, je sais pas ce que t'en penses, toi, Adrien, mais vu comment il a dominé le Dauphiné...
Beaucoup sont en train d'émettre une légère supposition sur quand le Tour arrivera et qu'il devra enchaîner 3 semaines de compétition. On parle de la compétition aussi la plus dure au monde. 3 semaines, c'est comme le Giro d'Italie et la Vuelta, mais le Tour de France, c'est une catégorie au-dessus, c'est les Alpes, c'est les Pyrénées, c'est les montagnes les plus dures qui soient. Quelques-uns disent quand même qu'il a laissé peut-être des plumes physiques lors des Flandriennes, Paris-Roubaix, etc. Mm-hmm. Peut-être que sur 3 semaines de rythme, et on sait que la dernière semaine du Tour de France, tout se joue en montagne à ce moment-là, peut-être que certains disent peut-être que Vingegaard peut profiter regain de forme.
Vous avez vu peut-être son comportement, justement, où il se relève en laissant l'étape à Vingegaard.
Et puis les déclarations.
Oui, et puis surtout ce qu'il dit derrière. Il dit j'ai laissé une étape être gagnée par d'autres pour éviter le protocole de fin de course. Celle-là, je la laisse, ça m'a permis de récupérer dans le dernier kilomètre. La fois où il gagne l'étape, Vingegaard finit à 15 secondes derrière, mais il finit à 15 secondes. Pourquoi ? Parce que dans le dernier kilomètre, j'ai roulé tranquillou, je me suis économisé.
Excusé avec sa femme aussi, où il a dit je vais regarder ma femme, du coup c'est pour ça que je suis arrivé un peu trop vite.
Il a dit beaucoup de choses, il a aussi dit qu'il voulait garder sa 100e victoire pour le tour.
Attention au karma.
Soit c'est un ego démesuré, soit c'est des manières de faire des petites piques en mode je suis dans ma tête inatteignable. Tu n'arriveras pas à prendre le dessus sportivement.
C'est aussi une bonne mentalité, je pense, pour gagner.
Oui. Alors lui, dans son cas de figure, je pense que ça va lui servir. Oui.
Mais bon, on va continuer quand même sur un petit peu de cyclisme. Pour Monsieur Bléhard, c'est Coco.
Du coup, oui. Rico.
C'est Coco, Rico. Et oui, parce que nos Français, ils ont brillé au Tour de Suisse, puisque dès la première étape, c'est Romain Grégoire de la team Groupama FDJ qui a pris le lead au classement général. Il est parvenu à conserver cette première place tout au long de ces 3 premières étapes. Et au général, il est suivi de près. Il est suivi là de 25 secondes par un autre Français, Kevin Vauclin, de l'équipe Arkea. Et sur la 3e marche du podium, on retrouve l'Hollandais Bart Lehmann de la team Visma. Et une mention honorable pour le cador Julien Alaphilippe, puisqu'il est quand même ex-aequo avec l'Hollandais, à seulement 27 secondes de Romain Grégoire. Blair, est-ce que... Pardon, Baptiste, est-ce que tu le vois peut-être faire un podium à la Philippe sur ce Tour de Suisse ?
Pourquoi pas ? Parce que je crois qu'il avait déjà attaqué plusieurs fois sur l'étape, donc compliqué de finir en étant pas mal. Voilà. Après, Romain Grégoire est vraiment, vraiment costaud sur ce Tour de Suisse, donc à voir.
De basket ?
Un petit peu de basket, justement.
Pour enchaîner, mais là, on va loin. On n'est plus du tout en Suisse ou en France.
On n'est plus du tout en Suisse. On va de l'autre côté du globe, direction les États-Unis et plus précisément Indianapolis, puisque le Game 4 a été remporté sur le score de 111 à 104 par les Thunder d'Oklahoma City. Après avoir été dominé du premier jusqu'au dernier quart-temps et mené de plus de 10 points à quelques minutes de la fin du match. Alors, les Thunder, ils ont quand même fait preuve de courage, d'une belle mentalité, puisqu'ils sont parvenus à s'imposer 31 à 17 sur le dernier quart-temps, offrant un sursis et même plus en recollant au score dans la course au titre, deux partout à présent, avantage au KC, puisqu'ils reprennent l'avantage du terrain. C'est une super opération, puisqu'en remontant dans ce match, quand même, ils évitent 3 balles de match aux Pacers d'Indiana, qui auraient mené 3-1. Et je parlerai même de revers de la médaille, puisque dans la nuit de lundi à mardi, Oklahoma a confirmé ce regain de confiance en battant les Pacers d'Indiana 120 à 109. Donc Oklahoma mène désormais la série 3 à 2, match décisif potentiellement dans la nuit de vendredi à samedi à 2h30 du matin. Mais on va faire un petit tour côté France quand même, c'est important. La Betclic Elite qui nous livre une première manche qualitative, si je puis me permettre. Victoire logique du Paris Basket face à la Roca Team de Monaco, 94-82. Bien mené encore une fois par le leader du moment, TJ Short, qui a planté 30 points en 28 minutes. Il confirme ce qu'on peut appeler une excellente forme du moment après avoir roulé sur Bourg-en-Bresse dans les demi-finales. 113 points sur ses 4 derniers matchs, c'est une performance majuscule. Pour un tout petit arrière de 1m75, comme quoi c'est pas la taille qui compte, j'ai envie de vous dire. Un petit peu de ballon ovale en top 14, le clou du spectacle quant au sauvetage in extremis de l'USAP qui parvient à se maintenir en top 14 face à Grenoble sur le score de 13 à 11. Triste sort pour Grenoble à 2 petits points qui va devoir repousser sa montée et maintenir les efforts l'année prochaine en restant en pro des deux. L'occasion peut-être de consolider ce groupe qui a montré bien de belles choses cette saison. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent monter la saison prochaine, Grenoble ?
C'est surtout c'est une succession d'échecs.
Mmh. C'est une succession d'échecs.
Ils sont sur 3 années de suite où ils perdent ce match. Déjà, ils perdent depuis 3 saisons la finale de Pro D2 qui leur permettrait de monter tout de suite en top 14 et s'éviter un match de plus. Ils perdent ce match. Mmh. À chaque fois, ils arrivent en match d'accession contre le barragiste de top 14. Cette année, c'était Perpignan. Et ils perdent encore, là, de Perpignan qui envoie... une pénalité, je crois, donc c'est une pénalité, c'est pas un drop. J'avais un doute avec un drop, mais une pénalité dans les dernières minutes qui leur permet de gagner 13-11. Donc encore Grenoble qui l'a encore plus amer, j'imagine, de perdre comme ça dans ces circonstances-là. Donc Grenoble, c'est. Enfin, on n'y croit plus. Enfin, on se dit que moralement,
Tu prends un coup.
Tu es abattu et c'est même plus sûr de revoir Grenoble jouer les premiers rôles en Pro D2, tellement on se dit qu'à un moment donné, ils vont craquer, l'effectif ne va pas suivre, les joueurs vont ils vont partir.
Je parlerai de face sombre de l'iceberg, même si ça fait 3 fois d'affilée ou pas. Je pense que c'est un effectif qui est capable, s'ils parviennent un petit peu à garder leurs joueurs, ça peut se faire. Mais bon.
Ah oui, on n'est pas 100% pessimiste. Oui, mais là, force est de constater que tu peux le faire une fois, mais pas 3, bah si, tu peux le faire 3 fois. En fait. Donc, et même 6 fois, si on compte les matchs perdus de finale de Pro D2. Donc je pense que moralement, surtout la présidence, le club, les dirigeants, ceux qui sont là depuis ces années. Un joueur qui arrive en cours de saison, qui découvre l'effectif, qui va jusqu'au bout, qui dit j'ai perdu, il dit ah c'est loupé cette année. Ceux qui sont là depuis tout ce temps, ils disent ça fait beaucoup de fois qu'on perd.
C'est vrai qu'ils doivent broyer du noir. Mais bon, pour nous, on va se diriger vers la phase dorée du tableau à présent. Les quarts de finale, l'aviron bayonnais, clinique ces derniers temps, qui est venu confirmer sa forme actuelle en s'imposant 20-3 face à l'ASM, Clermont. Ils vont devoir par contre affronter le Stade Toulousain pour une place en finale. De l'autre côté, c'est le Racing Club. Et non, Baptiste, je ne vais pas te parler du Racing Club de Lens, bien moins prestigieux ces derniers temps, mais bien du Racing Club de Toulon, qui s'est imposé samedi sur le score de 52-23 face à un Castres Olympique. Désabusé par les performances de Melvin Jaminet, l'ancien arrière du 15 de France, qui a fait rentrer pas moins de 29 points dans cette rencontre, offrant à l'aviron bayonnais des peignas dans les bars, mais surtout une place en demi-finale face à l'équipe du moment, celle qui a remporté la Champions Cup. L'Union Bordeaux-Bègle. C'est une perf à souligner quand même, celle de Melvin Jaminet. Est-ce que vous pensez que c'est des matchs qui peuvent le faire à nouveau rentrer dans la tête du sélectionneur Fabien Galthié?
Oui, il l'a jamais quitté.
Oui, il l'a jamais quitté, mais...
Non, tu peux pas, en fait, tu dresses 4 noms, il n'est peut-être pas dans les titulaires d'un 15 de France, peut-être pas encore à ses yeux, mais il est forcément dans...
Il est forcément dans la tête.
Tu n'oublies pas Melvin Jaminet, tu n'oublies pas des joueurs comme ça, tu n'oublies pas...
Je suis d'accord.
Je pense pas. Mais encore, faut-il les circonstances, le cadre extérieur, les polémiques qui viennent aussi par-dessus.
C'est ça le problème.
L'image, il y a plein de choses. Mais niveau sportif, ça s'oublie pas.
Et vous pensez là que l'aviron bayonnais, ils ont une chance face à l'Union Bordeaux-Bègles?
Non.
Clinique.
Moi, non.
Là, non. Ouais, il montre belle chose.
C'est UBB version 2024-2025. C'est dur.
Tu peux avoir
la meilleure équipe d'Europe. Qui est
impeccable, donc ouais, ça va être très très compliqué. Je suis pas non plus hyper aussi pessimiste qu'Adrien, mais bon.
Bah, c'est même pas pessimiste, très... c'est même réaliste.
Oui, c'est réaliste. Mais...
S'ils ont une chance, oui, parce que ça se joue jamais à 100% contre.
Oui,
zéro.
Voilà, c'est ça.
Mais
que
sur le papier, jamais je ne vois l'aviron bayonnais.
Ah non, je pense pas.
En fait, c'est aussi des ADN de club, l'aviron bayonnais, quand même. C'est plus familial, c'est moins starifié qu'un Union Bordeaux-Bègles.
Ça se passerait chez eux encore, je te dirais.
Ouais, ça change la donne.
Mais là, je te dis même pas peut-être. C'est triste, hein, mais l'aviron va couler. Hein.
Voilà. Et pendant que tous ces événements ont eu lieu, tous ces résultats, il y en avait qui tournaient, eux. Et pendant 24 heures, une idée de ce dont je vais vous parler peut-être.
Ah, pardon, je n'avais pas allumé. Oui, bah oui, ça tournait.
Ah, les 24 heures du Mans.
Oui, 24 heures.
Effectivement, le fameux 24 heures du Mans. Et cette année encore, pour changer, c'est la Scuderia, ou le Scuderia, comme vous voulez, qui s'est imposé ce dimanche 15 juin 2025. Triplé de Ferrari après 2023 et 2024. Cette année, c'est la Ferrari numéro 83 qui a gagné, pilotée par le trio polonais, chinois et britannique. Rien que ça, composé de Robert Kubica, Yifei Ye et Philippe Hansson. Bon, les puristes m'excuseront pour les erreurs de prononciation. Et on a même eu droit à un petit moment star avec la présence de Roger Federer au paddock. Humble, comme toujours. L'aura d'un petit revers de longue ligne à la Wimbledon. Vous direz que ça n'a aucun rapport avec les voitures, mais détrompez-vous, puisqu'il a observé et analysé cette course avec un calme légendaire. Il a aussi dit que c'était un sport d'endurance, comme un match en 5-7, sans pause pipi. Bref, le roi du gazon me permet de faire le lien avec l'actu tennis du moment. Les premiers tournois de la tournée ont également rendu leur verdict. Une victoire chez les femmes de la vétérante allemande 43e mondiale, Tatiana Maria, 37 ans, qui s'est imposée à Londres en finale 6-3-6-4 face à l'américaine Armanda Anisimova, 13e mondiale. L'allemande, elle a lâché qu'un set dans cette tournée britannique, c'est très fort. Et côté Stuttgart, c'est les Américains qui redorent leur image après la victoire en 2-7 de Tyler Fritz face au local et favori du tournoi, Alexander Zverev, sur le score de 6-3-7-6, un petit 7-0 au tie-break final, histoire de remettre un petit peu les pendules à l'heure en toute humilité. Et l'Américain qui a signé la caméra du tournoi, coutume au tennis bien sûr, en disant « I'm back » après un first à Roland-Garros. L'Américain annonce qu'il est de retour dans la partie. Mais le plus important, s'il vous plaît, messieurs, c'est la performance majuscule tout au long du tournoi d'Hertogenbosch aux Pays-Bas. Alors, je vous l'accorde, c'est qu'un ATP 250, mais c'est le jeune Canadien Gabriel Diallo. Je vous en avais parlé la semaine dernière de ce jeune qui a 23 ans, qui s'est imposé, et avec la manière, hein, brillamment, face à des adversaires aussi redoutables les uns que les autres, qui plus est sur gazon. On pense ici à Jordan Thompson, qu'il a écrasé après un gros combat en 3-7. Hugo Humbert, on parlait la semaine dernière que c'était un gros joueur sur gazon. Il s'est incliné en 2-7 face au jeune Canadien. Et Karen Khachanov également en 2-7. Et en finale face au voisin belge Zizou Bergs, 2-7-0. Encore une fois, 7-5-7-6. Petite stat intéressante, il a disputé au moins un tie-break dans chaque match excepté un. Et il n'en a pas perdu un seul. Clinique le Gabi, ça vous impressionne vous?
Très fort. Oh, ouais. C'est une belle entame, en tout cas.
Bonne pioche, Charlie. Bonne pioche sur tes pronos.
T'as misé sur le bon poulain, Charlie.
On a parlé, c'était pour Andy Murray. On parlait
de potentiel joueur que Andy Murray aurait pu prendre sous son...
Puis voilà, il me donne un petit peu de crédibilité en gagnant ici à Hertogenbosch. Donc c'est super.
T'es quand même Monsieur Tennis, ça aurait été dommage de te louper là-dessus. Merci beaucoup, Charlie, en tout cas, pour tous ces résultats. On va marquer une petite courte écourte, c'est la même chose, je viens de dire, c'est un pléonasme, tout simplement, une courte pause musicale. Il y a d'autres résultats en cours, notamment, j'étais bien inspiré de voir un peu ce que faisaient nos bleus au championnat du monde de judo. Je pensais judo, j'ai pensé musique, judo, j'avais rien du tout. J'ai pensé Japon, et c'est la première chose qui me soit venue à l'esprit. Un peu de soprano avec Ninja, pour s'ambiancer quand même, parce que le soir, comme ça nous évite de nous endormir. On se retrouve juste après avec les news du CC, pour poursuivre.
Bolide allemand, cultivé, riche et élégant. Il avait le pédigré d'un super amant. L'homme parfait, l'homme rêvé. Il avait tout ce que l'autre n'avait pas. Il t'offrait du élevé. T'as tout fait pour qu'un jour il te mette la bague au doigt. Doigt, doigt. Mais dès qu'il a eu son premier soin, il est parti comme un ninja. Comme une Rihanna, robe moulante, prof de Zumba. Oli, elle t'a fait croire que t'avais 20 ans. Ta femme parfaite, t'en rêvais. Elle avait tout ce que l'autre n'avait pas. Tu offrais du Dolce. T'as tout fait pour qu'un jour tu lui mettes la bague au doigt. Toi, toi. Mais dès qu'elle a vidé ta vie, elle est partie comme un ninja. Comme un ninja.
de retour en direct sur Radio Campus Lille 106,6 FM. C'était Ninja de Soprano, voilà, pour celles et ceux qui se seraient peut-être enjaillés un petit peu sur ce son kung-fu-esque, je ne sais pas comment le dire. On poursuit ce Campus Sport Club après les résultats du très bon Charlie, et il est temps de passer aux petites news du CSC, et c'est Bibi qui s'y colle.
Vous n'avez pas suivi l'actu sportive de la semaine ? Pas d'inquiétude, c'est l'heure des news dans le Campus Sport Club.
J'ai vu la tête de Baptiste à l'instant.
C'était pas ta voix, ça.
C'est pas ma voix, mais parce que j'ai fait exprès. Et j'allais dire, petite dédicace aussi à celles et ceux qui ont contribué tout au long de cette saison 4 au Campus Sport Club. Merci notamment à Marin qui a fait de très belles chroniques tout au long de l'année. Et bien d'autres, voilà. Mais c'est parce que j'avais le jingle de Marin sous les yeux. Donc je fais aussi ce petit clin d'œil. Merci aussi à toi, Baptiste, d'avoir animé une main de maître cette saison 4. Tu as magnifiquement participé à tout ça. Maintenant que j'ai fait la lèche, voilà. Allez, je reprends mon dernier rôle. On va démarrer ces news avec une info un peu plus tristoune. De dernière minute, même, on est dans le football. Bernard Lacombe, champion d'Europe 1984 avec l'équipe de France et triple champion de France avec Bordeaux, est décédé dans la soirée à 72 ans. L'ancien attaquant phare de l'Olympique Lyonnais, devenu par la suite même directeur sportif, entraîneur et conseiller au club de Jean-Michel Aulas, était hospitalisé depuis janvier. L'OL n'a pas tardé à partager la triste nouvelle sur ses réseaux, et Bruno Genesio, l'entraîneur du LOSC et ancien lyonnais et ancien coach lyonnais, s'est dit très triste de la disparition de son deuxième père, son mentor. C'est une légende du football français qui s'est éteinte ce soir. Le CSC transmet toutes ses condoléances à la famille Lacombe. Je reste dans le ton du football un peu plus joyeux. Je ne sais pas comment vous prendrez ces informations-là. On est dans le mercato. Ça a un peu repris. C'est une drôle de période avec la Coupe du Monde des clubs qui a commencé en parallèle. Le mercato français a repris depuis lundi. Il s'est passé quelques petites choses en deux jours. Le LOSC, d'abord, est en passe d'officialiser sa première arrivée du mercato d'été avec la signature du Norvégien Marius Broholm. Selon les informations du journal L'Équipe, l'ailier de Rosenborg devrait s'engager jusqu'en 2030 à Lille contre un chèque de 5 millions d'euros pour le club norvégien. D'après le quotidien français, le joueur a passé sa visite médicale aujourd'hui. Ça risque de ne pas tarder. Lille, qui cherche toujours le remplaçant de Jonathan David en pointe de l'attaque, le club avait parmi les noms de sa shortlist un autre David, promisé, je ne sais pas trop si vous saviez.
Promise,
qui est aussi canadien, ça aurait été une drôle d'histoire. Mais l'attaquant de 23 ans a prolongé ce mardi avec l'Union Saint-Gilloise. Piste gelée, complètement gelée, contrairement à celle menant au Nantais Mathis Ablin, qui est toujours plus ou moins tiède. Le LOSC est à la fois dans un duel à distance avec l'Olympique de Marseille, qui courtise également l'attaquant international espoir, et le président du FCN, Valdemar Quita, qui demande 50 millions. Donc, voilà, on est un peu dans le... Voilà, deux poids deux mesures avec Valdemar Quita, toujours quand il est question d'argent. Toujours dans les infos mercato de la région à Nantes, encore, on y reste un tout petit peu. On note l'officialisation de l'arrivée de Luis Castro sur le banc des Canaries. Le Portugais est désormais ex-coach de Dunkerque et lié à Nantes jusqu'en 2027, avec une année en option. L'USLD a de son côté accéléré dans la quête de son successeur et tout porte à croire qu'elle se dirige vers un autre Portugais. Elle adore... les Lusitaniens, sa petite USLD. On parle de Gonçalo Feio, entraîneur du Legia Varsovie en Pologne, qui l'a emmené en quart de finale de Ligue Conférence. Là encore, l'info est signée L'Équipe. On parle d'un profil bouillant, au gros tempérament, selon la presse polonaise même. Petit pétage de plomb parfois. Et qui devrait débarquer dans le Nord, certainement courant de semaine, si tout se fignole bien. Toujours pour le Mercato, petit tour à Lens, où Pierre Sage et sa direction ont fait un premier choix fort, celui d'activer un droit de veto dans le cas Morgan Gilavogui. Ça concerne un peu plus Baptiste, là encore. Prêté toute la saison à Sankt Pauli en Allemagne, l'attaquant guinéen avait convaincu son nouveau club de lever l'option d'achat qui allait avec le prêt. Mais le Racing a contre-attaqué et décidé de rapatrier son joueur en échange d'un accord budgétaire. Parce que le club avait levé l'option d'achat à 3 millions d'euros. Mais le Racing avait, dans le cadre du contrat, une clause pour re-racheter le joueur contre 4,5 millions d'euros. Ils ont perdu 1,5 million dans l'échange, a priori, de ce qui se lit. Mais tout ça pour rapatrier Gilavogui. Et donc, ils ont usé de ce droit de veto pour garder le joueur. A priori, peut-être que Pierre Sage a dit « il m'intéresse ». Ouais. Je sais pas si t'as des échos, t'as des oreilles à Lens, je sais que tu traînes dans les couloirs.
Déjà, Leka apprécie beaucoup le profil. Puis c'est un très bon joueur, Morgan Gilavogui, surtout avec un très bon état d'esprit. Oui. Et je pense que ça convient très bien à Pierre Sage, vu la qualité du bonhomme. Et vu la saison qu'il a fait à Sampdoria, moi j'ai hâte de le voir en Ligue 1 cette saison.
Il faut peut-être réussir à le faire jouer aussi bien qu'il ne l'a été, dans les dispositions qu'il a été en
en Allemagne. Il faut voir si Pierre Sage trouvera la recette. Je finirai avec le mercato en parlant des grosses actus signatures de ces derniers jours. Peut-être que vous êtes passé à côté. Je parle notamment de la signature définitive du français Mathys Tel à Tottenham, à Londres, racheté au Bayern Munich contre 40 millions d'euros au terme de son prêt. Tel s'est engagé jusqu'en 2031 avec les Spurs et grâce à ce contrat, lorsqu'il avait été vendu au Bayern Munich par Stade Rennais devrait récupérer un pourcentage de la vente en plus, donc ça touche un tout petit peu notre industrie française. On n'oublie pas non plus l'arrivée du dieu Kevin à Naples, comme l'écrivait ces derniers jours la presse italienne, au moment de l'arrivée de Kevin De Bruyne. Après 10 saisons à Manchester City, c'est un nouveau départ pour le capitaine des Diables Rouges qui retrouve son compatriote Romelu Lukaku chez le récent champion d'Italie. C'est une drôle d'opération.
Non, mais je crois qu'en plus, il va récupérer le numéro 10 de Maradona, alors que ils avaient, Naples, justement, avait. Ils avaient retiré son maillot, justement.
Comme à la manière de la NBA, des
basketteurs. C'est exactement ça, ouais. Et donc, à ce qui paraît, il reprendrait le numéro 10 de Maradona.
D'où le dieu Kevin qui circule.
Peut-être.
Ouais. Parce qu'on parlait toujours de Maradona, le dieu. Et dernier dossier chaud pour finir, enfin, l'AS Monaco qui aurait formulé, messieurs, une offre plus que sérieuse au Français Paul Pogba. Pour rappel, le champion du monde 2018 est sans club depuis la résiliation de son contrat avec la Juventus Turin en novembre. Et donc, on parle d'un dossier qui avance à petits pas. Paul Pogba s'est aussi affiché très récemment, il y a quelques heures, avec des photos où on le voyait en forme physique. Et lui, qui n'a pas caché depuis des mois son envie de vite reprendre la compétition, parler de Marseille à l'hiver. C'est Dieu Monaco qui est sur les devants. Fausse bonne idée que... ou... ouais,
Non, c'est une bonne c'est chose. Une moi, je trouve que c'est une très bonne chose. On serait tous très contents, en tant que Français, évidemment, de le revoir sur nos pelouses de Ligue 1. Donc, je pense que Monaco, c'est quand même un club qui a des ambitions. Chaque année, il joue des Ligues des Champions, des très bonnes campagnes. Je pense que c'est un élément solide, Paul Pogba, à voir s'il se retrouve en forme. S'il tapote bien le ballon, mais comme tu l'as dit, il fait un bon petit coup de com' en montrant qu'il est en forme. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée, pas de fausse bonne idée.
Et puis, il va bien être accompagné aussi au milieu avec Zakaria notamment, donc pourquoi pas.
L'AS Monaco, a priori, avec les premières pistes, dont Paul Pogba, aurait construit un 11 qui nous rappelle un peu aussi ce 11 2016-2017, très solide au milieu, vif en attaque, un Monaco champion de France. Donc ça
avec
peut
l'époque
aussi,
de Kylian Mbappé, Lautin. Ouais.
Lautin, on n'oublie pas. Toujours dans l'actualité footballistique, je poursuis mes news, on parle de Kylian Mbappé. Bah justement, il est annoncé incertain, le petit Kix, pour l'entrée en lice du Real Madrid à la Coupe du Monde des Clubs. C'est selon, en tout cas, l'émission espagnole El Chiringuito. Chiringuito, bah bien sûr. Mais non, j'ai fait le V en allemand.
Ça s'entend pas.
Chiringuito. Les Merengues affrontent Al Hilal demain soir à 21h heure française. L'attaquant français est dit fiévreux et n'était pas à l'entraînement, en tout cas aujourd'hui. J'en finis avec le ballon rond avec cette dernière info. C'est l'État français qui a signé ce mardi le contrat de concession de l'exploitation du Stade de France pour désormais l'entreprise GL Events pour les 30 prochaines années. Le groupe lyonnais devrait procéder à d'importants travaux de modernisation de l'enceinte sportive. JL Events a été préféré au consortium actuel détenteur du Stade de France, Vinci Bouygues, qui laissera donc l'entreprise s'installer à partir du 5 août prochain. À voir donc, il y avait toujours cette histoire avec le Stade de France et le Paris Saint-Germain. En tout cas, voilà, la concession est revenue à JL Events. C'est acté. Voyons maintenant ce qui va se passer. On a 30 ans pour voir. Va se passer. Tout va bien. Du ballon rond à la petite balle jaune, il n'y a qu'une phrase. On passe même, si je puis dire, de la terre battue au gazon. Tu l'as déjà un peu évoqué, Charlie, dans les résultats. Et on a vu dernièrement une Française qui commençait à s'entraîner pleinement sur gazon. La jeune Loïs Boisson, on en a pas mal parlé avec Roland Garros. On vous rappelle aussi, il y a un très bel hors-série. Allez écouter sur notre plateforme presque 2 heures de contenu pour revenir sur cette édition 2025 de Roland Garros. Et ben, la demi-finaliste de ce tournoi-là des internationaux de France attend toujours de savoir si sa demande de wildcard auprès du tournoi de Wimbledon va être acceptée. Pardon. Le tournoi, pour rappel, a fixé le cut d'entrée dans le tableau principal en plein milieu de Roland-Garros, alors qu'elle était encore bien au-delà de la 300e place mondiale. Elle ne pouvait donc pas légitimement entrer directement dans ce tournoi. Mais depuis, la Française a fait un tournoi exceptionnel. Elle en est ressortie 65e mondiale et numéro 1 française. Et donc, elle a tenté sa chance par écrit et demandé à voir si elle pouvait bénéficier d'une invitation de la part du tournoi, auquel cas elle devra passer par 3 tours de qualification pour espérer être à Wimbledon. En parlant de tournoi du Grand Chelem, une grosse actualité aussi est tombée ce mardi, ça concerne l'US Open, peut-être que Charlie l'a vu aussi celle-là. Le tournoi américain annonce un plateau exceptionnel pour sa nouvelle version. Incroyable. J'ai pas tout saisi de l'histoire, j'ai pas trop creusé dans le passé. De quand date ce changement ? la nouvelle version du double mixte.
C'est incroyable.
Fou. Mmh. On parle de la présence pour l'US Open entre fin août et début septembre, donc, de Yannick Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Novak Djokovic, ou encore Arina Sabalenka et Gaziantep, mais aussi Paola Badoza, Stefano Tsitsipas, qui devraient être ensemble, le petit
évidemment.
Couple, ou encore Naomi Osaka et Taylor Fritz. Voilà, on parle de 16 équipes, donc mixtes avec toutes ces stars, qui devraient être engagées dans le tableau avec à la clé $1 million de gains. C'est une toute nouvelle formule où là, cette fois, c'est vraiment très superstar. C'est une bonne idée.
Je suis mitigé dans le sens où, fan de tennis, on va aimer ce divertissement. Mais ça nous rappelle un petit peu, justement, cette Coupe du Monde des clubs, là où on en viendra après. Mais en fait, c'est que pour le divertissement, que pour les vues.
Bon, en tout cas, on distingue très bien qu'il y a un vrai décalage entre peut-être une mentalité européenne qu'on a, nous, ouais. françaises, et les Américains c'est qui sont business, énorme. Argent, starification.
Là, du coup, ouais. plus profondément, je trouve qu'il y a un petit côté intéressant dans le sens où ça donnera forcément plus envie à tous les téléspectateurs et à des jeunes qui aiment le tennis de regarder ce format qui est différent du simple. Donc s'intéresser au double notamment et peut-être aux femmes un petit peu plus largement. Donc je pense que ça peut être une bonne idée sur ce plan-là.
Peut-être interrogation sur à quel point c'est toutes ces stars qui sont aussi en lice, en simple, et vont viser une victoire en Grand Chelem, vont s'investir physiquement parlant dans les matchs. Et on va peut-être surtout voir très vite que ceux qui sont éliminés au bout de un ou deux tours vont essayer de capitaliser là-dessus.
Sûrement même. Exactement, ouais. Parce que s'il y a un million à la clé, c'est pas rien du tout.
Un million pour le couple, hein, a priori.
Oui, bien sûr.
Donc après, à partager plus.
Mais bon, on prend. Badoza et Tsitsipas, ils ont un compte joint, de toute façon.
Oui. Oui. L'Espagnol et le Grec, ils sont en couple depuis pas mal de temps. Restons aux États-Unis, on avance sur la. Et on va finir bientôt ces news pour parler des derniers avancements dans le dossier Kevin Durant à San Antonio. On parle de NBA. Le joueur est envieux de quitter les Suns de Phoenix cet été et vivre ce qui se rapproche de sa dernière aventure là-bas. Kevin Durant serait de plus en plus proche de rallier donc Victor Wembanyama et les Spurs. Selon ESPN, 5 franchises sont intéressées pour acheter l'année de contrat du 15 fois All-Star. Mais selon The Athletic, un autre média américain, l'allié fort aurait fait de San Antonio sa destination préférée. ESPN parle d'un verdict attendu avant la draft, autour des 25 et 26 juin. C'est très très bientôt où on va peut-être
c'est énorme.
On va peut-être manger de bonnes chips d'ici là. Ça va être spectacle. Et on finira avec du cyclisme enfin. J'ai démarré par une mauvaise nouvelle, je vais finir par une peut-être mauvaise nouvelle. Le président de la formation Arkea BNB Hotel, monsieur Manu Hubert, est en train de se dépêtrer d'une situation périlleuse pour son équipe. Le patron tente de trouver des partenaires pour permettre à sa formation World Tour de survivre, alors que les contrats des sponsors se terminent à la fin de l'année civile. On ignore toujours même si Arkea ou BNB Hotel ont envie de poursuivre l'aventure. On parle des sponsors principaux et co-sponsors principaux. De premiers éléments de réponse seront donnés d'ici les 2 prochaines semaines. On espère en tout cas que cette formation puisse tenir encore un petit peu. Voilà. Sachant que sportivement parlant, elle joue aussi son maintien au World Tour. Mais ça, c'est une toute autre histoire. Là, je parle de disparition nette et simple. Ouais. Et on pense à Kevin Vauquelin qui se démène énormément quand même pour tenir cette équipe.
Attention, toutes les équipes qui vont se rafaler sur lui, parce que ça va être la pépite à s'acheter dans les prochaines années.
C'est vrai. Voilà, messieurs, pour le tour de l'actualité.
Oh, je suis quand même choqué de Kevin Durant.
Pour ouais.
C'est énorme s'il va à San Antonio,
ah oui,
duo avec Wemby.
C'est vrai qu'un Kevin Durant, t'as 36 ans, tu le prends quand même.
Non, mais c'est surtout qu'il est. En fait, Wemby, il est fan. C'est son all-star depuis petit, c'est Kevin Durant. Donc là, il va jouer avec lui, avec D'Aaron Fox. Attention aux Spurs l'année prochaine.
C'est vrai.
En plus, Wemby, vous avez vu, peut-être. Il est parti en Chine.
Oui,
il joue les moines Shaolin.
Ouais, ouais. Je ne l'ai pas noté, ça remonte un peu, mais oui, effectivement.
Et là, il est toujours. Tous les jours, on a des petites actus qui sortent justement sur ESPN, etc. Donc, c'est sympa de le voir, les cheveux rasés.
C'est la seule fois de leur vie où ils ont dû dire dans la rédac qui veut aller au Népal.
Personne
n'a jamais compris. Non, c'est pour un reportage. On va traquer Wemby. Un mec de 2m21, n'empêche, tu le vois.
Il dépasse du temps.
C'est sûr.
Ouais, c'est chaud. C'est chaud. Bon, les gars, on va quand même s'arrêter là. On va prendre quelques minutes maintenant si on veut débattre un tout petit peu sur un sujet, pas d'immense sujet débat a priori cette semaine, mais on voulait juste réappuyer un tout petit peu nos ressentis, nos premiers avis sur la Coupe du Monde des clubs donc, qui a démarré depuis le 13-14 juin. Ça fait que quelques jours. On a parlé notamment de la performance du Paris Saint-Germain. On a vu des confrontations entre grands clubs européens et petits clubs, on va dire petits,
limite amateur.
En termes de niveau de jeu, en tout cas petits clubs internationaux qui ont croisé leur route. Pour l'instant, qu'est-ce que ça vous a, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que même vous restez éveillé la nuit? Peut-être à minuit, 3h. Expliquez aux gens que vous êtes chômeur ou pas. Hein, mais...
Non, ouais, mais jusqu'à 3h, là, ça devient compliqué. Bah, tu vois, au départ, j'avais beaucoup d'attention sur cette compétition. Je me suis dit, allez, ça peut être sympa. On va suivre toutes les équipes. On va retrouver Lionel Messi. Et bien, finalement, je suis très déçu. Voilà, dès le premier match d'ouverture.
Entre Al Ahly et l'Inter Miami. Donc,
ouais, entre,
Messi, voilà, 0-0.
0-0 et un niveau de jeu un peu dégueulasse. On va pas,
disons les termes.
On va dire les termes. Voilà. Puis pareil, quand on voit les équipes européennes, j'entends bien les arguments. Ouais, les équipes européennes elles peuvent aller chercher leur chance avec un gros gain à la clé, mais quand tu vois la performance de l'Atlético contre Paris, j'appelle pas ça tout donner pour une compétition. C'est même lamentable la performance qu'a faite l'Atlético de Madrid.
Après, c'est peut-être pour encore mieux appuyer que, décidément, depuis quelques mois, Paris, tactiquement et physiquement parlant, est nettement au-dessus de ces équipes-là.
Loin de là de
voilà, on ne va pas dévaloriser.
De dévaloriser Paris, mais bon. Voilà, il y a certaines équipes qui sont pas au rendez-vous.
T'as pas senti l'engagement.
Voilà, Auckland City contre le Bayern de Munich, on va être gentil, mais les pauvres, ils se prennent 10-0, ils rentrent chez eux. Enfin, ok, ils ont eu un maillot de Olysée ou de. Non, mais il faut bien être gentil, mais au bout d'un moment, là, on est un peu dans un cirque, j'ai l'impression. Qui ne sert pas à grand-chose. Les seules équipes qui donnent un peu, on va dire, c'est plutôt les équipes brésiliennes, les équipes sud-américaines, ouais, plus largement, comme Flamengo ou Boca Junior, qui sont vraiment là pour donner. Normal, ça fait partie de l'ADN. Mais sinon, le reste... Là, je commence à m'ennuyer vraiment devant la compétition et à me brancher sur l'Euro Espoir.
Ça fait que quelques jours.
Ça fait que quelques jours, bien sûr.
Radical, mais ça témoigne de quelque chose. Toi, Charlie.
Parce que justement, tu demandais si je me lèverais pour regarder ça. Non, je pense que je préfère regarder un Game 5. Mais,
de NBA, de NBA justement. Ceux qui n'ont pas de compréhension.
Mais je pense qu'il y a quelques petits points intéressants. Bon, déjà, en fait, moi, ce que je me demande, c'est vraiment... la différence de niveau en fait entre les clubs européens et les clubs américains. Ça, je trouve ça assez impressionnant. Mais d'un autre côté, je me dis parce qu'en fait, pourquoi ils sont moins bons? C'est parce que c'est beaucoup moins réputé. Là-bas, ça va être justement le basket, le baseball, le hockey sur glace, etc.
Pour l'anecdote, pour ceux qui ne sauraient peut-être pas, on parle aux États-Unis d'un Big Four. Et on parle de Big Four de sport, donc c'est ceux que tu viens de citer.
Ouais.
C'est le hockey sur glace, c'est baseball, foot américain et basket.
Ouais. Ça s'appelle même pas le football.
C'est le soccer.
Non, le football américain.
Football européen.
Okay. Non, mais pour eux, donc le Big Four, c'est ces bien sports-là. Sûr, oui. Le soccer est déjà à peine émergent depuis 25-30 ans.
Et c'est pour ça, et c'est là que je trouve ça intéressant, c'est qu'en fait... malgré tout, même si aux États-Unis on sait qu'il y a cette culture justement très américaine, on regarde pas trop autour, mais je pense qu'on a plein de petits jeunes qui vont aller voir des beaux matchs, des grands joueurs, etc. Et ça peut donner envie. Et en fait, si une nation comme les États-Unis commencent à se mettre dans le football, dans ce qu'ils appellent le soccer, je pense que dans les 30-50 prochaines années à venir, et on peut avoir de très belles choses. Et plein de compétitions qui vont changer. Ça peut être très très, très intéressant en fait, de ce point de vue-là.
Par contre, point de comparaison assez intéressant, tu dis ça peut amener des gens à aller. C'est Enzo Maresca, l'entraîneur de Chelsea, alors que l'affiche était quand même Chelsea-Los Angeles FC.
Ouais.
C'est vraiment l'une des très belles affiches de ce premier tour, tu vois.
Sur papier,
on a Olivier Giroud, Gloris, on sait qu'il y a des vrais éléments. Aussi, ouais. Il y a des Européens qui sont allés dans ce club-là, comme d'autres. Hein. Mais on sait que sur le papier, c'est un beau match dans l'idée. Eh ben, lui n'a fait que constater que le stade était grandement vide. Il avait l'impression de jouer dans un stade vide, justement, tellement il y avait peu de spectateurs. Et ça rappelle que pour le match d'ouverture, ils ont bradé les places qui pouvaient coûter 250 à 300 dollars à l'époque, à 39 dollars pour que les gens remplissent le stade. Donc même aux États-Unis, en fait, ils se rendent compte que c'est pas parce que tu ramènes toutes les écuries européennes que la compétition fait saliver.
Ouais. C'est pour ça que même nous, on a du mal peut-être à regarder. Tu disais que tu en avais regardé un petit peu, Baptiste, et que voilà, ça t'avait déjà un petit peu embêté. Mais en fait, c'est aussi que c'est tellement changeant de ce qu'on connaît. On regarde, on va se mettre un match à 17h. Bon, on a l'impression que c'est un dimanche de Ligue 1, mais on est dans un stade complètement ouvert. Je pensais à l'Atlético, justement, face au Paris Saint-Germain. Un stade complètement ouvert, plein soleil, il y a pas l'ambiance qu'on connaît. Nous c'est très Ligue 1, en France, on a quand même beaucoup d'ultra, etc. C'est peut-être pas des ambiances à l'anglaise, mais il y a beaucoup d'ultra.
Encore ouais, plus ce match qui a dû se jouer à des horaires un peu parfois où ils jouent aussi.
En l'occurrence, on a un gros décalage horaire, mais pour eux c'est midi quoi.
Ah, c'était midi, mais j'ai jamais vu un. C'est peut-être une éternité que je n'avais pas vu un match où je cherchais l'ombre des joueurs.
C'est ça.
Le soleil était tellement au zénith. Ouais. Que l'ombre était vraiment sous entre les pieds. J'ai jamais vu un match sans ombre.
C'est pour ça que rien que visuellement, tu vois, ça nous choque un petit peu tous les trois à regarder. Donc c'est pour ça quoi, un petit peu moins d'ambition à regarder ça, mais ça peut amener des belles choses à l'avenir, moi je pense.
Après pour revenir sur ce que tu disais sur les États-Unis, ils ont quand même commencé beaucoup à investir dans le soccer, attention. il y a quand même Lionel Messi qui est arrivé, Luis Suarez, Hugo Lloris, Olivier Giroud, enfin il y en a des stars. Pour moi il y a un gap et ce gap il restera toujours entre les équipes européennes qui ont cette culture du football, que ça soit la culture anglaise, la culture française, du football, la culture italienne aussi, c'est vraiment une culture du football à part entière, et les équipes qui viennent d'arriver, on le voit par exemple l'Arabie Saoudite, ça, on essaye mais ça vaut pas le niveau européen.
Peut-être leur laisser aussi le temps, voilà.
Je suis pas non plus de là à me dire que dans 30 ans
d'ici la Coupe du monde de la FIFA 2033 on aura des vraies équipes compétitives.
Mais même je suis pessimiste quand même. Même 2033, moi je pense que c'est quand même un petit peu trop court terme, vraiment des sports comme ça aux États-Unis qui ont mis des lustres, vraiment des décennies, tout ce que vous voulez, des siècles là, justement, être classé au rang du Big Four des sports. Voilà, le foot ça peut pas arriver en 10-15 ans comme ça, même si justement là on a des Messi comme tu dis qui est arrivé, c'est pas suffisant, ça fait trop peu de temps qu'il est là. Maintenant le Messi de 2010 quoi, j'ai envie de te dire non plus, donc
Bien sûr,
c'est juste, ça va prendre du temps, mais je pense que c'est une très bonne chose et ça pourrait être très intéressant pour l'avenir d'avoir un pays comme les États-Unis qui se met dans le foot, quoi.
Et sur ce dernier argument, nous terminons ce petit débat. Coupe du monde des clubs, merci Charlie et Baptiste. Merci d'avoir donné des coups de fond là où il fallait. Petit moment, on se remet la banane. J'ai repensé football, j'ai repensé grande compétition en lien avec les États-Unis plus ou moins, mais une musique quand même à chaque fois qui résonne un peu dans ma tête, que j'aime beaucoup, pour rappeler la Coupe du monde 2010, notamment, avec Waving Flag, pour celles et ceux qui connaissent bien. Ah, peut-être. Ça a peut-être rappelé de bons souvenirs, c'était il y a 15 ans. Je profite de ce petit moment, c'est la dernière aussi de la saison. Je vais finir en beauté, moi, musicalement parlant. Et on se retrouve juste après pour mini-jeu quiz. On fera très court. Okay. Et les immanquables. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. See the champion, take the field now. Unify us, make us feel proud. In the streets, our hands are lifting. It surrounds us, every nation, all around us. Tant que l'on avance ensemble, dans la gloire comme dans la défaite, célébration, sauver nos France, on a tous le même refrain en tête. We all say, on est des soldats, sans armes au combat. Ce soir la mission, c'est de chanter dans les stades, chanter dans les stades, chanter dans les stades, chanter dans les stades. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. So wave your flag, now wave your flag, now wave your flag, now wave your. Oh, 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 sévère, voir nos champions nous fait rêver. Dans les rues, nos mains sont en l'air. Marque nos humeurs, joie comme colère. Tous unis sous une même bannière. Qu'importe l'issue, on a gagné. Tant que l'on avance ensemble, dans la gloire comme dans la défaite. Célébration, saut et offense. On a tous le même refrain en tête. We all say, when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. So wave your flag, now wave your flag, now wave your flag.
Waving Flag à l'instant sur Radio Campus League. Voilà pour un peu terminer cette saison 4 dans la bonne humeur, dans la joie. Agitez vos drapeaux, faites-vous plaisir et souriez à la vie. Voilà, ça devient très très philosophique tout d'un coup. Là. Il commence à se faire tard, 23h50 sur Radio Campus Lille 106,6. On arrive dans le temps additionnel bientôt de cette émission. On profite d'un petit moment avant de finir en beauté avec les immanquables de Baptiste. Je leur ai concocté un petit quiz pour les départager, pour finir aussi l'année tranquillou, mais en même temps avec un peu d'adversité. Voilà, on aime se balancer.
Ma chronique préférée, mon jeu préféré.
La séquence qui aura fait ta légende.
Il y a un buzzer ou quoi? Il y a un buzzer?
Non, il n'y a pas de buzzer.
On lève la main en premier.
Oui, c'est premier à répondre. J'avais préparé pour la semaine dernière, déjà, on n'a pas eu l'occasion de le faire. 10 questions sur la Ligue des Nations. La France qui avait bien joué dans son Final Four, battu 5-4 par l'Espagne, mais qui avait quand même bien géré. J'ai 10 petites questions sur la Ligue des Nations. C'est une jeune compétition. Il y a des questions qui ne datent pas forcément de cette édition-là, un peu sur le vécu. On va essayer de faire très rapide pour laisser du temps à Baptiste. Après, on touche pas aux ordi, au téléphone, évidemment. De toute façon, vous n'aurez pas le temps. Si vous n'avez pas la réponse, on passe. Évidemment, messieurs, c'est des réponses très simples, très rapides. Première question, par exemple. Qui peut me dire quelle nation a gagné la première édition de la Ligue des Nations?
France.
Non?
Portugal.
Oui.
Je suis déjà à la ramasse.
1-0. Charlie, pour commencer. Deuxième question, quels sont les buteurs pour la France en finale de l'édition 2021?
Hernandez.
Non, il en faut deux.
Mbappé.
Un.
Ouais, j'avais Mbappé.
Et
Koundé.
Non. Vous n'avez pas la finale 2021 qu'on gagne?
Je m'en souviens plus.
Non.
Non.
Non, vous ne l'avez pas celui-là. Ok, je ne donne même pas le point de Mbappé. Il faut les deux. C'est Karim Benzema.
Oh, j'allais le dire.
L'enroulé opposé.
J'allais vraiment le dire, mais je me suis dit, ouais, c'est trop tard. C'est
pourquoi tu ne tentes pas? Pourquoi tu ne tentes pas?
J'aurais dû le tenter.
Vrai ou faux? Par exemple, jamais encore le pays hôte du Final Four n'a gagné la compétition.
C'est vrai. Je suis sûr que c'est vrai.
Non.
C'est faux?
Ouais. Donc tu prends le point.
Ah ouais.
Quoi? Il a dit c'est vrai.
Oui, mais après, j'ai dit
c'est faux. Moi, c'est parce qu'il a regardé avec il y a de l'intrigue dans Radio Campus, je le jure.
Il faut le laisser un tout petit peu espérer, Charles.
Oui, laisse-moi.
Le Portugal, en 2019, a gagné chez lui. Wow. Donc, la première édition a été gagnée chez soi. Question 4. Laquelle de ces nations n'a jamais atteint le Final Four, justement, de Ligue des Nations entre Pays-Bas, Danemark, Belgique et Suisse?
Danemark.
Oui, bien joué.
Rapide aussi.
Pays-Bas deux fois, la Suisse en 2019 et la Belgique en 2021, puisqu'on les bat 3-2.
Ouais, la sacrée remontade.
Exactement. Question 5. Qui est le meilleur buteur de la compétition, toute ligue confondue et hors Final Four, dans la phase de ligue préparation? Qui est le meilleur buteur de la compétition depuis qu'elle a été créée?
Ah, depuis qu'elle a été créée?
Ouais. Et toutes les ligues confondues, pas Mbappé. Que la Ligue A. Hein?
Mbappé?
Non. Il y a quand même quelqu'un qui marque beaucoup de buts.
Lewandowski? Non.
Attends.
Ronaldo?
Non. Si tu commences à me tenter 8 noms, je te banne. Hein. Mais c'est pas mal.
Charlie, dans son s'il te plaît, là.
Tu veux savoir?
Attends, t'as dit qui le dernier, là?
Ronaldo.
Ah, okay.
Tu veux savoir une info? Ronaldo l'est si on compte les buts en Final Four, en finale.
Je suis bête ou quoi?
Alors, bon, pour vous donner un indice, il les a tous marqués en Ligue B. 19 buts en Ligue B.
En Ligue B?
Ouais.
Oh là là,
c'est quoi ça?
C'est la deuxième.
Pas une grande nation, mais c'est un grand attaquant.
C'est la deuxième. Enfin, t'as la Ligue A avec la France.
La Ligue A avec c'est quatre groupes en Ligue A qui se bataillent pour le Final Four. Et la Ligue B, c'est ceux qui veulent monter en Ligue A pour viser le titre.
J'ai dit un nom, mais non, c'est impossible.
Allez, 3.
Ah, bah, Haaland.
2. Oui. Erling Haaland, 19 buts tous en Ligue B avec la Norvège.
Bam.
Voilà, ça fait 3-2.
Non, mais.
2-2. Non, la question. Mbappé n'a pas compté. Combien de nations sont présentes au total en Ligue des Nations?
32.
Non, plus.
38.
Plus.
Ah, oh, merde.
45.
Plus.
Ah, bah, du coup, A et B.
A, B, C, D.
Ah, ouais, donc il y en a pas mal.
Les
150.
Non, moins, beaucoup moins.
72.
Moins.
55. Alors, on fait le juste prix, moins. Ça n'a plus aucun sens.
Ah, je suis pas mal là.
55, il est pas mal.
Combien il a dit?
Plus.
Combien il a dit?
J'ai dit 50 là.
58.
Moins.
56.
52.
Plus. Moins.
55.
Moins.
54.
T'as dit quoi?
53.
Non.
54.
Oui.
Non.
Prends le point. Charlie prend le point. 54.
Mais ça peut pas être impair, frérot.
Oui, bah oui.
Ah, si, c'est possible. À la base, ils sont 55, mais ils ont banni la Russie, c'est te dire.
Bah voilà,
c'est vrai que ça fait une raison.
Allez, quelle équipe a terminé bonne dernière de cette édition 2024 avec aucune victoire et aucun but marqué en Ligue D?
Le Liche.
Non.
Ça
non. C'est pas mal. Non.
Non, c'est impossible.
Ça peut
dire le Vatican. Mais
non, c'est pas eux.
Non, Vatican a fait mieux que ça.
c'est dur.
Un pays pas loin de la France.
Luxembourg.
Non.
Non, ils ont gagné justement
c'est
contre
Saint-Marin. C'est pas mal, mais... Tout petit, c'est plutôt vers le sud.
Hein ?
Ouais.
Oh là. J'ai pas là.
C'est entre nous et l'Espagne.
Ah, l'Andorre ?
Oui, Andorre, il prend le point.
Voilà, c'est un point de géographe, quoi.
Allez, Baptiste, tu peux te refaire, il y a 4-3 pour Charlie. Celle-là, elle est que pour toi, Baptiste. Vrai ou faux, une nation a déjà réussi une triple montée coup sur coup ?
Vrai.
Ah, c'est faux. Charlie reprend le point. 5-3. Qui a terminé meilleur buteur de cette édition 2024-2025 avec 9 buts en Ligue C ?
En Ligue C ?
Mmh.
Bah, Ligue C, ouais, donc c'est quand même loin.
Ouais, mais c'est un nom qui... Il est connu quand même, surtout cette saison.
Gyökeres.
Oui.
Oh, fallait l'avoir celui-là.
Voilà, bravo. Bon.
Il aurait pu avoir Isaac en vrai avec lui.
Dernière question, mais on fait très court. Mais 5-4. Non, il est 5-3. Pardon. Donc ça va être. Non, attends, il y a quoi ? Il y a 4-4 alors du coup ? Ouais.
Non, bah, j'avais
4-3,
5 déjà.
Je crois.
J'avais 5 déjà. Donc.
Non, il y a 9 questions, j'en ai fait sauter une. Il y a 4-4. Il y a 4-4. Non, il y a 4-4.
Ah, c'est une
dernière pour vous départager.
J'ai fait voler les auditeurs.
Je m'en fous. C'est la fin, c'est la dernière.
J'ai gagné
à 500 000 euros près. Combien touche au total la nation qui remporte la Ligue des Nations entre ses frais de participation et les versements de primes ?
4 800 000.
3 millions.
Plus.
8 millions.
Plus.
10 millions.
Bravo. À 500 000 près, ça marche. 10 millions 5, Baptiste qui remporte le quiz pour finir cette saison 4. Charlie, t'es dernier arrivé, peu de respect.
Je peux faire un débrief des points qu'on m'a volé.
On n'a pas le temps, c'est quoi ? Parce que je lance tout de suite le jingle et Baptiste nous enchaîne avec les immanquables. Voilà, sans transition.
Tous les moments à ne pas manquer, rassemblés rien que pour vous, c'est les immanquables dans le Campus Sport Club.
Et là aussi, petit bisou à Martin, qui était la voix du jingle. Baptiste, on te laisse 3 minutes de solo. Vas-y.
Allez. Donc pour ceux d'abord qui, comme Charlie ou Adrien, aiment se coucher tard et profiter des rencontres de ballon rond, vous pourrez retrouver la magnifique compétition, la Coupe du Monde des clubs, dans le groupe F, le club de Corée du Sud, pardon, Ulsan affrontera le club pensionnaire d'Afrique du Sud, Mamelodi. Le match sera retrouvé sur le diffuseur principal de la compétition DAZN. Ensuite, un peu plus tard dans la soirée, le récent finaliste de la LDC, l'Inter Milan, fera également son entrée en lice dans la compétition en faisant face au club mexicain du Monterrey. Pardon. Et dans les autres affiches intéressantes de la fin de semaine, Manchester City affrontera le club marocain du Wydad AC demain donc à 18h. Le Real de Madrid retrouvera l'ancien club de Neymar Al Hilal à 21h. Le PSG tentera de s'imposer une seconde fois dans la compétition en affrontant le club de John Textor Botafogo dans la nuit de jeudi à vendredi. Chelsea tentera aussi de continuer sur sa lancée en faisant face au club brésilien Flamengo. Et dans la nuit de vendredi à samedi, donc à 3h du matin, l'ambiance promet d'être électrique entre le Bayern, récent vainqueur 10-0 d'Oakland City, comme tu le disais Charlie, et le mythique club de Boca Juniors et des anciens parisiens Edinson Cavani et Dander Herrera. Vous pourrez également suivre la suite de l'Euro Espoir en Slovaquie. Dans les rencontres de poule, les Pays-Bas affronteront l'Ukraine demain à 18h. Et en même temps, se jouera le match entre le Danemark et la Finlande. Donc le Danemark qui devrait être probablement le futur adversaire de l'équipe de France qui jouera son quart de finale dimanche. Et à 21h du coup demain, la Slovénie fera face à la Tchéquie. Et en même temps, l'Angleterre d'Ethan Nwaneri défieront les Anglais, donc d'Ethan Nwaneri, défieront les Allemands dans un choc qui promet d'être plein de surprises. Avis aux passionnés de tatami et de hippon, les championnats du monde de judo se poursuivent en cette fin de semaine. Demain, place aux catégories des plus de 78 kilos chez les femmes, avec notamment l'entrée en lice de Roman Diko, ex-championne olympique, ainsi qu'au plus de 100 kilos chez les hommes. Donc les premiers combats se débuteront à midi avant le grand final prévu à 18h. Tout ça, ça sera à suivre sur RM Sport 1. Rendez-vous à ne pas manquer aussi, c'est l'équipe de France mixte, championne olympique, qui essaiera de décrocher cette fois-ci une médaille d'or aux Mondiaux. Comme l'avait évoqué la semaine dernière Charlie, la saison sur gazon a commencé en tennis. Depuis la semaine dernière, le ATP de Halle est lancé. À partir de demain à 11h sur Eurosport, débutent les huitièmes de finale. L'occasion de retrouver, comme nous l'avons précisé, les cadors du circuit, comme Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Karen Khachanov ou Yannick Sinner, ou encore le français Quentin Alice. La finale se déroulera ce dimanche, lendemain de Fête de la Musique, donc préparez-vous. Malgré une soirée bien arrosée. Et puis, si vous voulez voir des Français gagner en cyclisme, ne ratez surtout pas le Tour de